Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
À suivre le petit déjeuner de l'actu, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel avec nous et vos appels 0826-300-300. En attendant, on fait une revue de presse avec Benjamin Gless. Qu'est-ce qui fait parler ce matin?
Oui, et la plupart des journaux, Benjamin, continuent de faire leur une sur l'hypothèse d'un reconfinement, comme par exemple, évidemment, Le Parisien aujourd'hui en France, qui s'intéresse au coût d'une telle stratégie.
Oui, avec des chiffres pour se rendre compte de ce que coûterait un reconfinement. La perte d'activité du côté des entreprises est estimée à moins 10% en cas de confinement léger, jusqu'à moins 18% sur un confinement strict, c'est-à-dire en fermant les écoles et les magasins dits non essentiels. De son côté, le Figaro nous explique pourquoi le gouvernement veut se donner du temps. Le Conseil scientifique et le Premier ministre demandent à Emmanuel Macron d'agir vite, mais le président de la République veut évaluer précisément l'état de la situation épidémique avant de se décider. Pendant que Jean Castex presse donc pour reconfiner, le président lui cherche à gagner du temps, nous indique un poids lourd du gouvernement qui témoigne de manière anonyme dans le Figaro. Ce qui explique aussi les hésitations du chef de l'État sur ce reconfinement, c'est l'adhésion des Français à la mesure. Elle est passée de 85% en mars dernier à 60% en octobre et maintenant elle est à 40% pour ces derniers jours.
Oui, d'ailleurs ces hésitations d'Emmanuel Macron font également la une de la Provence.
Oui, avec en première page une photo floue du président de la République. Alors, c'est pas un loupé du photographe, je vous rassure, mais simplement un écho au titre « Pourquoi Macron reste dans le flou ?». Un proche de l'Élysée explique que le degré d'acceptabilité d'un nouveau confinement pèse énormément, en effet, sur sa décision. Oui. En tout cas, le président de la République se retrouve épinglé à la une de Libération ce matin. La faute au virus de la défiance. Près de 6 Français sur 10 ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour les sortir de la crise sanitaire. C'est le résultat d'un sondage Via Voce, donc pour Libé. 57% de défiance et pour l'homme de la situation, c'est Olivier Varian, le jeu de mots, voilà, ouais, l'humour du côté du canard enchaîné pour le ministre de la Santé, en tout cas le canard qui évoque également les tergiversations du gouvernement.
Oui, c'est vrai. Et puis il y a les clubs sportifs dans beaucoup d'endroits qui s'essoufflent, notamment, c'est une illustration dans le Puy-de-Dôme, comme nous l'explique la montagne.
Oui, un des nombreux exemples qu'on peut voir ailleurs en France, bien évidemment, puisque ces clubs voient baisser leur nombre de licenciés alors que les activités en salle sont interdites jusqu'à nouvel ordre, que ce soit pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Les clubs ne ménagent pourtant pas leurs efforts pour fidéliser, conserver leurs troupes, rabais sur les cotisations, ateliers en extérieur, organisation de stages et si possible une prolongation de la saison au mois de juillet. C'est donc à lire, dossier complet aujourd'hui dans la montagne.
Oui, absolument. Merci à vous Benjamin Glaise. On enchaîne avec Philippe Rioux, éditorialiste à la Dépêche du Midi. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à tous.
En dossier ce matin, vous revenez notamment sur cette proposition de loi là, qui a été évoquée et discutée hier contre la maltraitance animale.
Exactement, cette proposition de loi qui est examinée à l'Assemblée jusqu'à demain et qui illustre vraiment la prise de conscience de la société au sujet du bien-être des animaux. Alors ouais. Les Français, 1 sur 2 possèdent un animal de compagnie, tout de même soutiennent désormais massivement cette cause animale qui n'a pas été défendue que par des associations. C'est pour ça que c'est un texte important qui a été co-signé par des parlementaires de tous bords politiques vraiment et qui fera date car elle propose de nombreuses mesures pour améliorer les conditions de vie des animaux domestiques. Alors cela va des certificats de sensibilisation pour les futurs propriétaires, à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirque itinérant et les delphinariums, on en a parlé récemment, oui. En passant par la stérilisation facilitée pour les chats errants ou le durcissement des sanctions pénales en cas de sévices sur les animaux. Donc c'est une proposition de loi qui est assez riche et qui constitue une vraie avancée, qui est saluée par les associations de défense des animaux. Mais il y a deux réserves toutefois, elles ne concernent ni la chasse, ni les élevages intensifs qui ont donné lieu ces derniers mois à de nombreuses vidéos chocs, de L214 ou de particuliers qui ont filmé des chasses à cours qui dérapaient un petit peu. Alors c'est deux sujets qui divisent encore les Français, qui ne sont pas du tout abordés dans cette proposition de loi. Et puis c'est une proposition de loi quand même qui est très concrète car elle a une dimension politique pour le gouvernement parce qu'elle permet de ne pas laisser la cause animale captée par tel ou tel parti. On sait que depuis plusieurs années, le Rassemblement National a fait un de ses sujets de prédilection. Et puis aussi, peut-être, elle permet de parler d'autre chose que de l'épidémie de Covid et c'est peut-être c'est pas vrai. Du mal pour l'instant.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, non, mais en même temps, il y a beaucoup d'animaux de compagnie, toujours en fait énormément. Et ce qui m'a frappé, c'est que il y a sur les chats, par exemple, et les chiens, mais je crois que c'est beaucoup plus fréquent chez les chats, énormément, quasiment un animal sur deux qui est abandonné et pas forcément repris, quoi, et qui erre un peu dans la nature, quoi.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'en plus, avec les différents confinements, les associations de défense des animaux, la SPA, ont constaté qu'il y avait beaucoup plus d'abandon, c'est-à-dire que les gens confinés, ben, ils se sont dit, on va prendre un petit lapin, un petit chat, et puis on se rend compte qu'effectivement, il faut s'en occuper, ça demande beaucoup de travail, et on les abandonne. Hein. Donc, ouais. C'est vrai que les abandons ont été en hausse ces derniers temps, c'est pour ça que la SPA, notamment, a lancé des campagnes d'information. Avant d'acheter un animal, c'est pas un jouet, donc il faut...
Voilà, c'est ça, parce qu'il y a eu, par exemple, j'ai vu une annonce qui avait été passée, je parle Le Bon Coin pour ne pas le citer, c'était dans la catégorie jouets pour la vente en fait, d'un animal de compagnie. Quoi. Vous voyez,
c'est vrai que pour contourner les abandons qui sont quand même punis hein, aujourd'hui, bien avant cette proposition de loi, certains passaient par les sites de petites annonces en déguisant l'abandon sous forme de dons, etc. Alors, il y a quand même des interventions, il y a une charte de bonne conduite qui a été élaboré avec les professionnels vétérinaires, hein, l'ordre des vétérinaires, etc., avec des sites, et notamment avec le site Le Bon Coin que vous citiez. Ouais. Et donc, c'est des chartes qui imposent de mettre, en regard de ces annonces, des messages pédagogiques pour sensibiliser les vendeurs, les donneurs, en rappelant leurs obligations en termes de santé, de protection animale, et aussi des messages pour les potentiels acquéreurs, en leur rappelant justement qu'un animal n'est pas un jouet.
Oui, non mais complètement, c'est ça. Merci beaucoup, à vous, Philippe Périoux, donc éditorialiste à la Dépêche du Midi, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On continue en fait les débats et le petit déjeuner de l'actualité avec Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et Éric Revel. Alors il y a plusieurs sujets sur la table et puis vos appels au 0826 300 300, hein, notamment autour du reconfinement. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations. Juste une question qu'on abordait en fait tout à l'heure et qui est un peu dans l'actualité, c'est cette demande de dissolution de génération identitaire hein, par Gérald Darmanin. On a entendu en fait un avocat tout à l'heure qui dit les bases sont un peu floues en fait autour de ça en fait pour demander une telle dissolution. En deux mots, votre avis. Commençons par vous, Elisabeth Lévy, et ensuite Alexis Poulain peut-être.
Alors moi je suis absolument scandalisé. Je pense que c'est vraiment la police de la pensée au sens strict. Parce qu'enfin, si vous voulez, Gérald Darmanin n'est pas scandalisé ou pas assez scandalisé par les activités de la brigade anti-négrophobie, du Parti des Indigènes de la République et de toutes sortes d'autres associations qui sont d'ailleurs, en ce qui concerne la première, souvent violentes. Alors on peut ne pas aimer les actions de génération identitaire, on peut ne pas aimer leurs opinions, mais là, on touche vraiment au dur de la liberté. Si vous voulez, il n'y a pas une idéologie officielle. Les scandalisations de Gérald Darmanin ne suffisent pas encore, si vous voulez, pour interdire quelqu'un. Alors là, je trouve que en pleine loi séparatisme, c'est un très mauvais signal, parce que c'est comme d'habitude, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Je suis vraiment, et je trouve ça très grave en fait, plus grave que ce qu'on a l'air de penser, même ce qu'avait l'air même votre invité d'ailleurs, je pense ce matin, je me rappelle plus son nom, avait l'air de le penser aussi, mais je trouve ça encore plus grave, voilà. Moi aussi, je suis scandalisé. Et c'est, si vous voulez, il y a une liberté d'opinion qui doit être respectée. On a le droit d'être contre l'immigration en France.
Bien sûr. Après, il y a. Alors, c'est la définition de provocation haine raciale, etc. Quoi, hein, donc,
Donc être contre l'immigration. C'est ça que veut dire Gérald. Vous avez raison, Patrick, juste un mot. Il y a cette espèce d'assimilation depuis des années qu'essaye de faire la gauche. Vous êtes contre l'immigration, vous êtes raciste. D'ailleurs, il y a énormément d'immigrés, de Français d'origine immigrée récente qui sont contre l'immigration. Et c'est comme l'a dit votre invité, on a le droit de débattre de ce sujet. Là, on tombe dans l'idéologie officielle.
Oui, c'est vrai. Alexis, en tout cas, c'est vrai. C'est le débat qui est posé, en tout cas. Alexis Poulain.
Oui, c'est un débat effectivement délicat et dangereux sur la liberté d'expression, mais dans le cadre de génération identitaire, on est là sur le terrain politique et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est dans le cadre de la loi séparatiste de dire, si ils souhaitent ne pas respecter les lois de la République, mais ce qu'ils font pas, puisqu'il y a déjà eu des procès hein, qu'ils ont pas ils n'ont pas perdu, je crois, mais ils font de l'agitprop d'extrême droite, oui, pour le coup, anti-immigrationniste, et ils utilisent ces outils-là. Mais on voit très bien aussi la filiation entre le Rassemblement national et Génération Identitaire, qui est soutenue, qui est là pour recruter également. Le risque, en fait, avec ces mouvements-là,
vous, c'est vous
le
procédé. Trompez, là.
Et la façon
vous vous trompez, ils sont assez loin les uns des autres, en fait.
Alors, peu importe, mais il y a un côté prosélyte dans le recrutement d'une jeunesse, les moyens utilisés,
oui, sur
les
réseaux sociaux, que ce soit, etc. Comme dans SOS Racisme.
Et donc, dans le cadre de la loi séparatiste, je crois que c'est par rapport à ces prosélytismes, qu'ils soient identitaires, qu'ils soient sur l'islamisme, peu importe, quel qu'il soit, où, effectivement, le ministre de l'Intérieur doit être vigilant.
Mais attendez, ça veut dire qu'on va arrêter les gens qui vendent l'humain sur les marchés ?
Non, attendez, parce que réalité, c'est que vous avez cette vitrine tout à fait présentable, hein, qui est Génération Identitaire, même si certains trouvent que c'est déjà extrême, mais derrière, vous avez toute une frange de l'extrême droite radicale qui, elle, utilise ce genre d'outils pour aller ensuite faire la guerre au Donbass, pour essayer de voir comment on va petit à petit, évidemment, aller de plus en plus vers la radicalisation. Et c'est en ça que c'est dangereux, et c'est en ça qu'il faut bien sûr vérifier la légalité. Il faut rappeler que Génération Identitaire avait reçu des financements via les États-Unis, lorsqu'ils avaient affrété un bateau, hein, contre les bateaux de migrants, du Ku Klux Klan. Donc il y a une réalité derrière d'ingérence étrangère, de la façon dont est financée Génération Identitaire. Donc c'est normal pour moi que le ministère de l'Intérieur s'y intéresse. Parce que oui, il y a un risque de séparatisme, et il y a un risque de prosélytisme, et il y a un risque aussi de déstabilisation.
Est-ce que vous avez une preuve de ce financement du Ku Klux Klan?
Ah oui, ça avait été. Ça avait été documenté
à l'époque. Alexis, mais surtout, c'est quand même assez grave ce que vous dites derrière eux. Alors moi, j'aimerais savoir qui y a derrière le Parti des Indigènes de la République. Mais moi, je ne suis pas du tout pour l'interdiction du Parti des Indigènes de la République. Je crois que le débat doit être libre. On ne peut pas censurer des opinions parce qu'elles nous déplaisent.
Et entre j'ai pas nous, parlé ni de censure ni d'interdiction. J'ai parlé de vigilance et de vigilance du ministère de l'Intérieur.
Je réponds un peu à Gérald Darmanin. Excusez-moi, je trouve que sa vigilance est assez mal employée, parce que il y a un certain nombre d'associations indigénistes qui sont violentes, il y a des antifas qui sont violents, qui cassent la gueule aux gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Génération Identitaire, ce qui déplaît en plus, c'est qu'ils emploient exactement les méthodes de la gauche. Ils emploient les méthodes qu'avait SOS Racisme, Ralph Front, etc. dans les années 80. Personne n'a jamais pensé qu'il fallait interdire SOS Racisme ou Ralph Front. Parce qu'ils employaient ce genre de méthode. Donc il y a quand même quelque chose d'assez grave. Ouais. On ne peut pas envisager l'interdiction de tous les groupuscules ou de tous les groupes qui scandalisent Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vraiment, ça me semble terrible.
Éric Revel, peut-être.
Oui, alors moi, je voudrais avoir une petite analyse un peu sociologique. Parce qu'on a cité Génération Identitaire, et puis Elisabeth dit... C'est comme SOS Racisme. Alors, je voudrais faire juste une comparaison.
Oui, parce que il faut cadrer un peu les choses. C'est pas la même chose.
Pendant les années 80, avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, il y a eu ce qu'on peut appeler un ensemencement culturel en France, c'est-à-dire des mouvements qui sont nés, comme SOS Racisme, et qui finalement ont propulsé, d'une certaine manière, au pouvoir, François Mitterrand, la gauche et le programme commun. Ce qui est intéressant dans le débat sur Génération Identitaire, me semble-t-il, sans me prononcer sur le fond, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemencement idéologique, il se fait à droite. C'est-à-dire que là où on avait SOS Racisme, qui a préexisté avant l'arrivée au pouvoir de la gauche, on a aujourd'hui un débat, c'est très symptomatique, sur Génération Identitaire qui porte des valeurs de droite ou de droite nationale ou d'extrême droite.
Ça veut dire que
l'ensemencement culturel aujourd'hui, il ne se fait pas à gauche, il se fait à droite. Et si je pousse un peu plus loin, ma chère Elisabeth, je dirais que pendant des années, les réactionnaires, c'était les gens de droite, c'est-à-dire des gens qui réagissaient à des idées généreuses, parfois géniales, de penseurs de gauche. Aujourd'hui, il me semble-t-il, le débat est centré sur des idées de droite, et ceux qui sont en réaction à ces idées de droite ce sont les gens de gauche. C'est-à-dire qu'ils sont devenus en réaction, c'est-à-dire les réactionnaires d'idées de droite. Et c'est très symptomatique, encore une fois. C'est le constat que je fais.
Toujours difficile de comparer, d'ailleurs, un peu toutes les...
L'idéologie qui se fait à droite, alors que pendant les années 80-90, Elisabeth le citait à juste titre, avec SOS Racisme, ça se faisait à gauche.
Oui. Alexis Poulain, peut-être, par rapport en fait, à ce que vient de dire Elisabeth, Eric,
C'est très juste. Il y a aujourd'hui, sur la lutte culturelle, théorisée par Gramsci, on voit que c'est la droite, l'extrême droite, qui gagne et qui a gagné longtemps. Enfin, les débats se sont décalés à droite de toute façon, et maintenant les thèmes de débat, les thèmes de campagne électorale également, sont ceux de la droite et de l'extrême droite.
D'ailleurs, regardez pourquoi, la démarche de Marion Maréchal avec la création de son école. Elle fait
une école. C'est la même chose.
D'ensemencer à droite le débat culturel.
Complètement. Et ce débat culturel, il est décalé à droite, mais aussi parce qu'on a vécu Maastricht, parce qu'on a vécu 2005, l'ouverture des frontières, le globalisme, etc. Et qu'arrive la présidence de Trump, arrive un moment, le retour de balancier, de dire, mais attendez, peut-être que les frontières ont un intérêt tout de même. Peut-être qu'elles sont là pour protéger, elles ne sont pas là que pour empêcher, que pour, je ne sais pas, c'est pas... La frontière, c'est une thématique philosophique, mais qui est nécessaire aussi en politique. Or, quand les globalistes ont décidé de tout abolir, de faire la libre circulation des biens et des personnes. En réalité, non, les personnes ne circulent pas librement, mais en revanche, les frontières, elles, se sont quand même relativement effondrées. Et c'est juste le retour de bâton. Et on arrive à ça, mais il ne faut pas oublier que... On ne doit pas perdre quand même les valeurs.
Alexis, c'est intéressant de voir valeurs sur la question des frontières, de voir que finalement, la France insoumise aura rejoint le Rassemblement national sur la nécessité de remettre des frontières. Vous vous souvenez de cette déclaration ?
L'axe souverainiste, peu importe la couleur politique, mais l'idée de dire...
Mais là, on va dépasser. Merci pour le débat, parce qu'on pourrait le faire des heures et des heures.
On marque une pause.
On reviendra aussi dans le petit déjeuner de l'actualité. Il y a beaucoup d'autres questions aussi sur la table, en fait, ce matin. Par exemple, toujours autour de ce reconfinement, ou ce que coûterait ce reconfinement. On en parlera d'ailleurs avec Alexis Poulain, c'est ce qu'il évoquait tout à l'heure dans son édito politique, absolument. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la famille, avec un livre sur la généalologie, alors particulièrement intéressant,
sur les tests ADN. Vraiment, vous allez voir que les Français adorent ça. Et vous aussi, vous voulez nous appeler d'ailleurs, 0826-300-300, c'est à partir de 9h15. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu, toujours avec Alexis Poulain. On va revenir d'ailleurs sur le coût de cet éventuel reconfinement, Patrick Roger. Et vos appels, bien sûr, 0826-300-300.
Oui, et puis des auditeurs qui nous appellent au 0826-300-300, avant de retrouver Eric Revel, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy.
Et José qui est
C'est José, oui, qui est
nous
avec nous.
De Toulouse. Bonjour José.
Bonjour.
José, bonjour. Alors, sur cette idée, en fait, du reconfinement, donc vous avez vu que le gouvernement hésite et recule, retarde sa décision, parce qu'il y a un coût, évidemment. D'un côté, il y a le coût sanitaire, bien sûr, mais de l'autre côté, il y a le coût économique, psychologique, etc., pour l'ensemble, en fait, de la société. Quel est votre avis, vous, José?
Mon avis est que je ne pense pas que le gouvernement recule, je pense seulement qu'il réfléchit, je pense qu'il prend compte de quantité de paramètres, lesquels changent tous les jours. Il y a un paramètre duquel je n'entends pas parler, ce sont les élections à venir dans moins d'un an et demi. Je pense que ça joue aussi, parce que si on rentre dans un confinement début février pour un mois et demi, ça veut dire qu'on va en sortir en période pré-campagne électorale. Donc je pense qu'il peut y avoir des conséquences. Personnellement, je suis contre le confinement. Je suis tout à fait conscient du problème que pose le Covid. Je suis tout à fait conscient du fait qu'il faut prendre des mesures. Je suis conscient du fait que personne n'aimerait être à la place des dirigeants actuels parce que le sujet est nouveau, totalement nouveau. Les solutions sont totalement inconnues. Il faut donc improviser. Mais je suis contre le confinement. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. J'ai 65 ans, je suis à la retraite, j'ai l'énorme chance d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. contrairement
à un revenu quoi.
Un revenu. En généralisant, j'ai ma retraite qui tombe tous les mois. Contrairement à tous les bistrotiers, tous les restaurateurs, tous les gens qui sont en station de ski, tous les intérimaires, contrairement
les indépendants, les
indépendants, je pense que j'ai une chance énorme. Ceci dit, je suis contre le confinement parce que je fais toujours beaucoup de sport, j'ai toujours fait du sport et j'en fais beaucoup. Je ne peux pas vivre enfermé à l'intérieur, je ne sais pas vivre à l'intérieur. Je ne sais vivre qu'à l'extérieur. Plus il pleut, plus il y a du vent, plus il neige, plus je suis heureux. J'ai fait 3h30 de vélo sous la pluie. Avant-hier, j'ai fait 3h de vélo sous la vent, le vent et la pluie. Avant-hier, j'ai fait 3h de vélo, etc. etc. Quand on nous a annoncé le premier confinement, j'étais ébahi, comme tout le monde, j'ai accepté le premier confinement. Quand on nous a annoncé le second confinement, 2 semaines avant, 3 semaines avant, je commençais à avoir les tripes nouées parce que je me disais, on va encore m'enfermer chez moi. Et là, on me reparle d'un troisième confinement. Moi, je n'en peux plus d'entendre ce mot-là. Parce que je ne comprends pas qu'on me dise, t'as pas le droit de prendre ton vélo et d'aller à plus d'un kilomètre de chez toi. J'habite une petite ville de 10 000 habitants. J'ai eu habité dans une petite ville de 300 et quelques habitants. J'ai eu habité Paris, une ville de quelques millions d'habitants. Si je raisonne mathématiquement, si on dit à tout le monde, vous avez le droit de prendre vos vélos, mais vous tournez en rond autour de chez vous, ça veut dire que toute la population va tourner en rond, va se croiser 10 000 fois par jour. Moi, quand je prends mon vélo dans ma campagne, quand je fais plus d'un kilomètre, je suis en rase campagne et je croise des merles, je croise des oiseaux, je croise des renards éventuellement, mais c'est tout ce que je croise, je ne vois pas qui je peux polluer, qui peut me polluer. Voilà. Quand on m'interdise de faire du vélo, il m'est arrivé de faire 5 km au début du premier confinement. J'ai fait 5 km en tournant en rond dans mon jardin. 5 km. Comme un lion en cage. Quand on nous annonçait le premier... après, j'ai étendu, étendu ma zone de roulage. Je me faisais 3 attestations. Je partais avec 3 attestations dans la poche. Et je faisais sans m'éloigner trop, mais je m'éloignais à plus d'un kilomètre jusqu'à 2,5-3 km de la maison. Je faisais jusqu'à 30 km. Quand on nous annonçait le premier des confinements, on nous a dit, vous n'avez pas le droit de faire plus de 100 km autour de chez vous. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais me cantonner à 100 km. Je suis parti à 100 km, direction j'habite au sud de Toulouse, je suis parti vers Carcassonne, j'ai tracé un cercle autour de chez moi, j'ai fait 770 km. J'ai 65 ans. Et aujourd'hui, on veut me dire, tu restes chez toi. Et le pire de tout, je ne sais pas où est le pire de tout, on nous annonce, il y a des gens qui ont l'idée géniale de dire, quand vous allez sortir dans la rue, vous vous taisez, vous ne parlez pas, même si vous avez un masque, vous pas.
Dans le métro, notamment.
Dans les transports en commun. Les transports en commun. Les transports en commun ne se réduisent pas au métro. Il y a quantité de
modes. Bien sûr, les bus. Bien sûr.
Mais José, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez adapter le confinement au territoire, en fait?
Adapter le confinement au territoire, adapter à la situation de chacun. Chacun, je pense, est suffisamment adulte pour savoir ce qu'il a à faire. Je pense que la population française a compris depuis longtemps qu'il fallait mettre le masque. Nous mettons le masque. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand on se baladait dans Paris ou ailleurs, on se foutait la gueule des touristes asiatiques parce qu'ils portaient des masques. Aujourd'hui, peut-être qu'on réfléchit un peu plus, on se dit qu'ils avaient peut-être pas tort, et nous mettons les masques. On apprend qu'il faut se laver les mains. Moi, il y a longtemps que ma mère, j'ai 65 ans, il y a longtemps que ma mère m'avait appris qu'il fallait se laver les mains.
Oui, mais vous savez que tout le monde ne fait pas ça, José.
Quand je vois un président de la République qui se fait élire président de la République pour passer à la télé, dire lavez-vous les mains, ouvrez les fenêtres.
José, un confinement alors plus ou des restrictions en tout cas, comme celui du mois d'octobre.
Moi, je dirais uniquement les mesures que nous avons tous adoptées, lavage des mains, port du masque, la distanciation. Moi, j'ai la trouille quand je vais chercher une baguette de pain. Pourquoi? Parce que dans la boulangerie, on est 10-15 à faire la queue.
Il faut être dehors.
Quand il pleut pas, on fait la queue dehors. Quand il pleut, tout le monde s'agglutine à l'intérieur. Quand je vais acheter une boîte d'haricots verts ou n'importe quoi d'autre au petit hypermarché à côté de la maison, j'ai la trouille parce que je croise plein de monde. Quand je suis sur mon vélo, je croise personne.
C'est pour ça que, José, vous dites que les gens sont responsables, mais vous vous rendez compte que vous nous dites à l'instant l'inverse en disant que ben, les gens ne font pas attention, finalement, ils sont collés les uns aux autres.
Je ne dis pas qu'ils ne font pas attention, je dis simplement que si on nous restreint les heures de sortie à une demi-heure
par jour, ça
va
être pire.
J'exagère à outrance. Ouais. Si on nous restreint les zones de sortie à une demi-heure par jour, il va y avoir 60 millions d'habitants ou presque, parce que les bébés ne vont pas aller faire les courses et les papys de 95 ans non plus, c'est quelqu'un qui les fait pour eux, mais on va se retrouver tous dans les magasins en même temps. C'est pas ne pas faire attention, c'est qu'à un moment donné, pour vivre, il faut manger un minimum, donc voilà, il faut bien, à moins d'avoir tous un jardin.
C'est vrai, José. Et Alexis Poulain et Éric Revel sont restés parce que c'est, là, vous nous avez parlé en fait de liberté beaucoup, et puis il y a aussi, il y a aussi le coût économique évidemment et psychologique. Ça fait partie du coût psychologique,
Je pense qu'il est énorme. On va remettre des décennies en s'en remettre. Ouais. Je comprends pas qu'on dise à tous ces gens qui ont mis toute leur vie et toute leur tripe pour créer une affaire, pour monter un bar, un restaurant, je comprends pas qu'on leur dise ne travaillez pas. Ça va faire dans 2 ans, ça va faire 50 ans. 50 ans, un demi-siècle qu'on est dans le chômage de masse. Date du premier choc pétrolier 1973, 73-21, ça fait 48 ans aujourd'hui, ça fait. Et au bout de 48 ans, on dit à la population, messieurs, mesdames, ne travaillez pas, restez chez vous.
C'est parce qu'il y a ce virus. Alexis Poulain, ce témoignage de José. José, restez avec nous, encore quelques minutes.
C'est très juste, je crois que José résume ce que beaucoup de Français pensent sur l'absurdistan autoritaire, c'est qu'à un moment, on est conscient de la responsabilité individuelle et collective qu'on a dans les gestes barrières, dans le port du masque, dans faire attention aux autres. Maintenant, empêcher l'accès au littoral, empêcher de faire du sport, empêcher l'accès à la nature, empêcher tout, finalement, ce qui rend heureux et ce qui permet aussi de booster les défenses immunitaires, c'est scandaleux et c'est contre-productif, c'est débile. Et empêcher les gens de travailler, c'est encore pire que tout, puisque là, on est en train de créer une faillite. Le FMI parle de la France avec inquiétude, comme si on allait être la prochaine Grèce. Donc, rendez-vous compte de ce qui est en train d'être fait. Donc, on ne peut pas continuer à prendre les gens pour des à les mettre en cage et à dire vous allez tourner dans une roue pendant des heures et puis ça suffira et vous sortirez quand le virus sera plus là. Le virus, il est là, il y a le variant anglais, il fallait faire peut-être des choses plus intelligentes comme fermer la gare du Nord et empêcher les Eurostars blindés de variants anglais d'arriver pendant les fêtes. Ça n'a pas été fait, c'est trop tard. Fermer les frontières comme le fait l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande, s'attaquer au virus, pas s'attaquer aux Français, pas s'attaquer aux gens qui essayent de vivre.
Et puis maintenant, essayer d'isoler tout. Éric Revel, et puis un mot encore de José et peut-être une petite...
Oui, je voudrais juste te donner quelques chiffres, si possible.
Oui, il y a la question, Patrick, de l'acceptabilité. Puis il y a une question énorme dont on ne parle pas beaucoup parce que ce n'est pas très grand public, c'est la question financière et la question économique. La question financière, c'est quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que la France, pour soutenir tous les plans qu'elle a mis en place, a emprunté en 2020 1 milliard d'euros par jour en moyenne. 1 milliard d'euros par jour d'emprunt en 2020. Donc, question financière, question de dette à rembourser. D'ailleurs, vous avez sans doute noté le changement de ton de Bruno Le Maire, qui ne dit plus jamais on augmentera les impôts, qui dit maintenant, nous ne souhaitons pas augmenter les impôts. Ce qui est une évolution.
Évidemment qu'il les
augmente. Donc, il y a la question financière. Et puis, il y a la question économique, qui est énorme. C'est qu'il y a un sondage très important qui a été publié, qui montre que sur les 680 000 PME qui ont souscrit le fameux prêt garanti d'État dont vous parliez tout à l'heure, Patrick, il y en a 300 000 à peu près, un peu plus de 300 000 qui disent on n'est pas sûr de pouvoir le rembourser. Ça veut dire qu'il va y avoir des faillites en cascade. Or, en France, c'est quoi le tissu industriel? C'est quoi qui permet un rebond de la croissance et des embauches? Ce sont les PME. Donc, si on a une partie du tissu industriel qui n'est plus là, qui est en faillite, on aura un problème de rebond de croissance et on aura un problème d'emploi majeur. D'ailleurs, là aussi,
réflexion
dans le discours de Bruno Le Maire, il parle plus de 6% de croissance, comme le rappelait Alexis Poulain, il dit « on espère faire ça, mais on n'est pas sûr de le faire, parce qu'on ne connaît pas l'étendue des dégâts sur le tissu industriel des PME en France ».
Et Elisabeth, d'un mot ?
Je souscris parfaitement à ce qu'a dit Alexis et sur les frontières et sur l'absurdité. Je remarque qu'on est tout de même le seul pays à avoir fait ces attestations délirantes. Ils aiment pas quand je dis Osweiss, les gens du gouvernement et de la majorité, mais c'est vraiment ça. J'aurais une question à poser à Eric, mais on n'a peut-être plus le temps.
Non, vous la poserez demain. C'est un bon teasing pour demain.
Très bien,
merci à vous. Éric Revel, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain et José qui est avec nous et qui pourra évidemment aussi reprendre la parole sur, sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On va s'intéresser à la famille, à l'intime aussi tout à l'heure dans la deuxième partie à 10h moins le quart. Mais d'abord la famille, Cécile. Hein.
Oui, puisque les Français sont gagnés par la fièvre de la généalogie. Vous allez voir que dans un instant, on va en parler avec un spécialiste. Cette espèce de retour en arrière pour savoir nos racines, notre origine, nos familles. On va tout vous expliquer dans ce livre qui s'appelle « Quoi de neuf dans la famille ?» aux éditions Buchet-Chastel avec Jean-Louis Bocarneau. C'est tout de suite dans deux minutes, bougez pas.